Moteur, moteur, moteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans Un soir un film, votre émission cinéma sur Radio MDM. Je suis Fred, votre hôte pour cette demi-heure, et pour m'accompagner à la technique, nous avons Arnaud. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une grande nation de cinéma, l'Italie. Pays bien connu pour son intérêt particulier à l'art, que ce soit la sculpture, la peinture ou bien la musique, le cinéma italien ne déroge pas à la règle et se place dans le panthéon des cinémas les plus influents du monde. Influent avec la création de genres bien à lui, tels que le néo-réalisme, porté par des cinéastes comme Vittorio De Sica ou Luchino Visconti. Le giallo, sorte de cinéma d'horreur mêlant effroi, fantastique et érotisme, porté par l'immense Dario Argento, le western spaghetti, dont je vous ai déjà parlé, mais encore bien d'autres styles, comme le cinéma d'auteur à la Pier Paolo Pasolini ou Federico Fellini. Mais aussi influent avec un lieu absolument emblématique, Cinecittà, le Hollywood italien, créé sous l'impulsion de Mussolini en 1937, afin d'y tourner des films de propagande fasciste, ces news n'existant pas encore. Mais qui fort heureusement fut surtout le lieu de création pour beaucoup de cinéastes après-guerre, notamment américains, avec des chefs-d'œuvre tels que Ben-Hur et Covadis, permettant ainsi un développement économique plus important et rapide. Cependant, cette dépendance du cinéma italien envers le cinéma états-unien causa une longue traversée du désert à partir des années 80. Et, depuis les années 90, le cinéma latin remonte gentiment cette pente, notamment avec les travaux de trois réalisateurs dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant tout, parlons rapidement de l'âge d'or du cinéma italien, avec un film d'un des plus grands réalisateurs de ce pays, Amarcord, de Federico Fellini. Film réalisé en 1973, Amarcord nous invite à suivre Tita, un adolescent attachant et lubrique dans sa vie, au sein d'un petit village romagnol, une région située au nord-est de la boîte italienne, ainsi que quelques tranches de vie des habitants les plus excentriques et truculents de son village. La Gradisca, qui veut dire « servez-vous » en romagnol, une diva toute de rouge vêtue qui fait chavirer le cœur de tous les hommes du village, un avocat féru d'histoire qui n'hésite pas à briser le quatrième mur pour raconter de la ville à travers les âges quand ce dernier n'est pas coupé par un plaisantin pétomane, un vendeur de friandises mythomane et bien d'autres. Tout ceci se passant dans les années 30, dans une Italie acquise au fascisme. Amarcord pourrait être traduit par « Je me souviens » en romagnol. Et ainsi, nous pouvons penser que ce film est finalement autobiographique. En effet, Tita pourrait bien être Fellini lui-même. Théorie probable, puisque le film ne suit aucune forme de structure narrative et est découpé en plusieurs séquences disjointes des unes des autres. Un peu comme si Fellini nous racontait ses souvenirs de jeunesse et le folklore de sa Bourgogne natale. En résulte ainsi, un film touchant, léger et très drôle. Les personnages enchaînant les blagues sur l'épée, l'obsession de Tita et de ses amis pour la masturbation avec pour objet de fantasme la Gradisca, les seins de la buraliste, les fesses rebondies de la statue de la victoire qu'il n'hésite pas à aller reluquer malgré la pluie et le vent, ou bien les histoires du vendeur mythomane qui veut faire croire qu'il est américain, ou bien qu'il a couché avec 28 femmes d'un vizir. Mais c'est aussi un témoignage d'une époque violente et brutale, mise en scène par la parade fasciste lorsque le Duce en personne, Mussolini, visite la ville. Nous pouvons voir un village conquis par ce poison, ainsi que l'absurdité et la violence sans limite dont les fascistes font preuve, notamment à travers une scène, superbement mise en scène, où un peloton de soldats canarde un gramophone jouant l'international communiste sur le clocher de l'église, et la torture que le père de Tita subit en guise d'interrogatoire pour savoir s'il est responsable. La mise en scène, tout en jeu de lumière, est somptueuse, mais le placement des acteurs dans le cadre est ce qui fait de ce film un chef-d'œuvre. Tout nous est montré avant d'être dit. Comme par exemple, ce plan où Tita et sa famille rendent visite à son oncle Théo, afin de le faire sortir d'un asile psychiatrique pour un repas dominical, et où ce dernier est jugé comme normal par les surveillants. Or, un peu avant l'arrivée de la calèche à la maison, Théo demande de s'arrêter pour satisfaire un besoin naturel, se lève, et Fellini le filme en contre-plongée. Mais nous voyons seulement la tête de Théo en bas à droite du cadre, indiquant ainsi un problème, quelque chose qui cloche. Et s'ensuit donc, Théo surinant dessus, et, quelques scènes plus tard, nous le voyons monter dans un arbre, criant qu'il veut une femme.
Voglio una donna!
Beh, ma è un bisogno più che normale. C'ha 42 anni. Oh,
sì, ma quello casca, eh.
Ma io, a 42 anni? Hai voglia? Ma adesso basta, scendi giù!
Tout ceci est quand même montré avec légèreté, puisque le grand-père de Tita suit d'une blague « C'est normal de vouloir ça à 42 ans » et que lui, à cet âge-là, il y allait, comme on dit. Je vous invite grandement à regarder ce chef-d'œuvre, d'autant plus qu'il est disponible à la location gratuite à la médiathèque du Marsan. Et je vous laisse, pour notre première pause musicale, avec le thème du film, composé par l'immense Nino Rota. C'était le thème principal de Amarcord de Nino Rota, et vous êtes toujours dans Un soir un film sur Radio MDM. Quand on pense aux clichés de l'Italie, il est difficile de ne pas penser à la mafia sicilienne. Et c'est le sujet traité dans le film suivant, mais qu'il aborde d'une façon extrêmement intelligente, sortant des clichés du film de mafia, dans le style du Parrain ou des Affranchis, tous deux immenses chefs-d'œuvre au passage, je ne critique pas, ce film-là est différent. Bien plus réaliste et moins porté sur la jouissance de l'image du mafieux. Et ce film, c'est Le Traître, ou Il Traditore dans son titre original. Il Traditore, donc, est un film sorti en 2019 et réalisé par un de mes réalisateurs préférés, Marco Bellocchio. On nous raconte l'histoire de Tommaso Buscetta, figure importante de la mythique mafia sicilienne Cosa Nostra. Dans les années 80, une guerre interne à Cosa Nostra décime les familles qui la composent, tout en mettant le pays à feu et à sang. Et pour éviter ce conflit, Buscetta décide de fuir au Brésil pour continuer son rôle dans l'importation de l'héroïne en Europe. Or, il se fait capturer par la police brésilienne et est extradé dans son pays natal pour son procès, où ce dernier fait la rencontre d'un héros de l'histoire italienne, le juge Giovanni Falcone, qui fut sauvagement assassiné en 1992 pour sa lutte incessante et acharnée contre le poison de l'Italie moderne, la mafia. Falcone demandant donc à Buscetta de se repentir et de briser l'omerta afin de faire tomber tous ses complices avec lui. Réticent au début et ne voulant pas passer pour un traître, Tommaso Buscetta refuse, puis se ravise, prétextant un souhait de revenir à l'ancienne Cosa Nostra, une sorte de mafia à papa où les femmes et les enfants n'étaient pas touchés par leur guerre entre, avec des guillemets, hommes d'honneur. Ces révélations permettant le maxi-procès, un procès historique tenu en 1986 durant lesquels 475 accusés furent jugés. Le film est grandiose, parce qu'il ne se contente pas que de nous raconter un procès, mais plutôt l'Italie entre les années 80 et 90. Un pays rongé par la violence, dont Bellocchio s'amuse à nous faire le décompte des morts du conflit en début de film, un par seconde. L'incertitude économique et le chômage, notamment avec cette scène où Buscetta, en route pour le tribunal, tombe sur une manifestation absolument hallucinante, où des ouvriers paradent en faveur de la mafia, avec des pancartes sur lesquelles sont inscrites, entre autres, « Mafia égale travail ». Un parfait exemple de l'état lamentable dans lequel l'Italie se trouvait à cette époque. Bellocchio cherchant à se rapprocher le plus possible du réel, n'hésitant pas à mettre de vrais passages télévisés dans son film, et surtout, cherchant à briser tous les mécanismes de jouissance du film de mafia. Notamment, avec la mise en scène de l'attentat à la bombe, dans lequel décèdent le juge Falcone, ainsi que sa femme, Francesca Morvillo, et trois de ses gardes du corps, Vito Schifani, Rocco Di Cillo et Antonio Montinaro. Cet attentat est mis en scène depuis l'intérieur de la voiture de Falcone, nous interdisant le plaisir de voir une voiture exploser, et nous montrant seulement la gravité et la cruauté de cette situation, notamment en faisant suivre cette scène par la célébration des mafieux, n'hésitant pas à sabrer le champagne et crachant sur les portraits du juge Falcone montrés à la télévision. Mais ce film, c'est aussi l'histoire d'un homme, Tommaso Buscetta, magnifiquement interprété par Pierfrancesco Favino. Violent, charismatique et autoritaire, il est le cliché parfait du mafieux. Et pourtant, Bellocchio remet l'église au centre du village, en nous montrant un homme inculte, venant d'un milieu social agricole pauvre, évitant ainsi toute forme d'admiration envers ce personnage, qu'il déteste farouchement. Aimant la vie plus que son propre honneur, Buscetta est pétri dans un déni absolument grandiose à regarder, tant les courbettes qu'il fait sont d'un niveau artistique afin de ne pas être considéré par ses pairs comme ce qu'il est, un traître.
Allora, Buscetta, lei in sede di istruttoria ha reso un lunghissimo interrogatorio di 487 pagine.
Sì, e confermo tutto. Io sono stato e resto un uomo d'onore. Sono entrato in Cosa Nostra con uno spirito e dentro di me quello spirito non è cambiato. Sono loro che hanno tradito gli ideali di Cosa Nostra. Per questo, signor Presidente, io non mi considero un pentito.
Voilà, je vous conseille grandement de regarder ce film. C'est un chef-d'œuvre, d'autant plus qu'il est disponible à la médiathèque du Marsan, à la location gratuite. Et je vous laisse avec Historia de una mort de Guadalupe Pineda, musique accompagnant une scène grandiose du film. Thank you.
estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión.
En tus brazos encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión.
Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después.
Ay, qué noche tan oscura, todo se me hace volver.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después.
Ay, qué noche tan oscura, todo se me hace volver.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
C'était Historia de un amor de Guadalupe Pineda. Et vous êtes toujours dans Un soir un film sur Radio MDM. On continue notre sélection sur le cinéma italien avec un film beaucoup plus léger, mais qui a pour point commun avec Il Traditore d'être un chef-d'œuvre. Ce film, c'est Journal intime, ou Caro Diario, de Nanni Moretti. Sorti en 1993, il s'agit d'un film autobiographique oscillant entre la fiction et le documentaire, où Nanni Moretti se met en scène et réalise des passages écrits dans son journal intime. Découpé en trois chapitres, disjoint des uns des autres et sobrement intitulé par En Vespa, Les îles et les médecins, Nanni Moretti nous raconte des petites tranches de sa vie, comme par exemple dans le premier chapitre, En Vespa, où nous le suivons dans Rome en plein mois d'août, déserté de ses habitants, nous racontant à quel point il aime regarder les maisons des quartiers cossus et avec quel stratagème il arrive à les visiter, souvent en prétextant un repérage pour un tournage fictif d'un film musical sur un pâtissier trotskiste des années 50. Moretti nous raconte aussi ses fantasmes et les met en scène, comme par exemple celui autour de la danse et à quel point il aimerait savoir danser. Envie donnée depuis qu'il a vu le film Flashdance avec Jennifer Beals, qu'il rencontre d'ailleurs par hasard, et s'ensuit un dialogue absolument lunaire où celle-ci le prend pour un fétichiste des pieds.
Jennifer Beals! Jennifer Beals!
Okay,
Jennifer Beals! Jennifer Beals! Sí. Di Flashdance!
Who's this guy?
I don't know.
Cosa ha detto?
Chi è lei?
Ah, perché a me sarebbe piaciuto sempre poter danzare. Ma per esempio, se fossi stato in Emilia Romagna, dove ci sono centri per anziani, ospedali che funzionano, strutture, servizi, scuole di ballo, tango, merengue, cha-cha-cha, mambo, allora quando vado a sentire musica potrei ora ballare e non veder ballare. E però quelle scarpe sono molto comode, così semplici eppure Beh, devono stare molto a loro agio i piedi, eh?
Sì, sono molto comodi. I think this guy must be, you know, a feet maniac.
Let's go.
No, you just have to be calm. He's a little bit off, just, you know.
Cosa ha detto, tipo pazzo?
No, no, no.
Non era crazy?
No, off.
Cosa vuol dire?
Vuol dire speciale, particolare, verso pazzo, ma non occorra. Isn't that right? I mean, off is the right thing.
Oh.
Not really crazy, but who, you
yeah.
know, it's not really troubled.
Oh, you mean like off-center?
Yeah, like off-center, but something more precise, I think.
Yeah,
it must be something more precise. Mm, or maybe whimsical. Whimsical, maybe.
Whimsical?
Quasi scemo.
Ou bien, son envie de retrouver le critique cinématographique ayant fait une critique positive à l'encontre du film Henri, un film d'horreur que Moretti déteste apparemment, et de le torturer en lisant des critiques plus pertinentes. Le film ne nous offre pas seulement de l'absurde et de la drôlerie, mais aussi des moments très intimes parfois. Moretti nous confiant qu'il n'est jamais allé sur les lieux où Pasolini fut assassiné. Et donc il y va, et nous amène avec lui, nous montrant la petite statue érigée en hommage. Statue subissant les affres du temps sur une plage abandonnée. Ainsi que le dernier chapitre, un peu plus documentaire que les deux premiers, où Nanni Moretti nous parle des déboires qu'il a eus avec des médecins pendant un an. Ces derniers n'arrivant pas à lui diagnostiquer un lymphome de Hodgkin, et finissant d'ailleurs sur un conseil important, buvez de l'eau. Caro Diario est un film vraiment très drôle et absurde, nous racontant la banalité de la vie d'un mec qui ne l'est absolument pas. Personnellement, le film m'a conquis en 10 minutes, et j'en suis sorti vraiment heureux. C'est un grand bol d'air frais, un vrai feel-good movie comme on dit outre-Atlantique. Et c'est pour ça que je vous conseille vivement Caro Diario, journal intime, d'autant plus que ce dernier est disponible à la location gratuite à la médiathèque du Marsan. Et je vous laisse avec Inevitabilimente de Fiorella Mannoi pour notre dernière pause musicale.
¡Vamos!
C'était Inevitabilimente de Fiorella Manaoi et vous êtes toujours dans Un soir un film. Et pour clôturer notre sélection sur le cinéma italien, il me paraissait évident de vous parler de Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore. Réalisé en 1988, Cinema Paradiso nous raconte l'histoire de Salvatore, cinéaste célèbre vivant à Rome et recevant un appel de sa mère depuis son village natal en Sicile. Village duquel il n'est pas revenu depuis 30 ans. Cette dernière lui apprend la mort récente d'un homme, Alfredo, joué par l'illustre Philippe Noiret, un de mes acteurs français favoris. Cette nouvelle bouleverse Salvatore, et passe la nuit à se remémorer son enfance dans la Sicile des années 40-50. A l'époque, il n'était pas Salvatore, mais Toto, un enfant espiègle et turbulent, passionné par le cinéma, et passe son temps libre au cinéma paroissial, le Paradiso, en compagnie d'un projectionniste local, Alfredo. Suite à son entêtement et sa passion débordante, Alfredo décide d'apprendre son métier à Toto, et les deux passent leur temps ensemble, Alfredo devenant peu à peu un père de substitution pour Toto, et à l'inverse, Toto devenant le fils qu'Alfredo n'a jamais eu, lui apprenant la beauté de la vie à travers le cinéma. Des films de Chaplin à Casablanca ou Autant en emporte le vent, Tornatore nous livre une ode aux films de ces années-là, qui l'ont sûrement formé lui aussi et donné cette envie d'être cinéaste. Et tout comme son réalisateur, le personnage de Toto, arrivé à l'adolescence, se met à filmer ce qui l'entoure. Des hommes abattant des veaux dans un abattoir, puis, et surtout, une jeune femme, Elena, dont Toto tombe amoureux, la filmant à son arrivée en gare, au travers de la grille de la station, montrant les rushs à Alfredo dans une très belle scène associant l'amour et le cinéma.
Che cos'è il passo ridotto? Le tue riprese?
Sì.
E che si vede?
Si vedono quelli del mattatoio che squartano un vitello. C'è tutto il sangue per terra, come un lago. E su questo lago sta passando un altro vitello che sta andando a morire.
Perché non parli più? Che si vede? Che si vede?
Niente, non si vede niente. È un pezzo tutto sfocato.
È una donna.
Ah.
È una donna.
Sì. È una ragazza che ho visto alla stazione.
E com'è? Com'è?
È simpatica. All'età mia. Magra. Con i capelli lunghi, castani. Gli occhi grandi, azzurri. L'espressione semplice. E una piccola macchia di fragola sulle labbra. Ma proprio piccola. Si vede solo da vicino. E quando sorride, ti fa sentire come... Non so. Come per dire...
L'amore.
On voit à quel point le cinéma passionne Tornatore, lui associant un aspect presque religieux, avec notamment une scène donnant l'impression que le faisceau du projecteur sort de la Vierge Marie elle-même. Cependant, Tornatore n'étant pas une grenouille de bénitier, il se moque de l'église, avec le prêtre de la commune regardant les films en avance, afin de censurer chaque scène de baiser ou de contact physique, allant appeler ça de la pornographie. Ce mélodrame nous offre aussi une légère critique sociale, montrant le cinéma comme seul échappatoire pour une population vivant dans la misère de la pré-Seconde Guerre mondiale. Un peu de tire-larme, je vous conseille quand même ce très beau film, d'autant plus que vous le trouverez à la location gratuite à la médiathèque du Marsan. Et pour clôturer cette émission, je vous laisse avec Il Maestro, Ennio Morricone, en charge de la musique du film, et je vous dis ciao, buona sessione e viva il cinema!
Thank you.
Oh putain, moteur!